Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Avant d'écouter cette mini-série de passage, nous voulions remercier Libération d'en être partenaire. À cette occasion, Louis vous offre un mois d'abonnement gratuit à Libération, sans engagement. Rendez-vous sur libé.fr/code promo, entrez le code Louis en majuscule, vous n'aurez même pas besoin de votre carte bancaire. Bonne lecture et bonne écoute.
Louis. Au début de son essai « Éloge de l'amour », le philosophe Alain Badiou commente les campagnes publicitaires à propos de sites et d'applications de rencontres. On est en 2009 et il commente les slogans de Mythique, par exemple « Ayez l'amour sans le hasard ». Alain Badiou dit « Je pense que la propagande publicitaire relève d'une vision sécuritaire de l'amour. C'est l'amour assurance tout risque. Vous aurez si bien sélectionné votre partenaire, vous aurez sa photo, ses goûts, son signe astrologique, etc. qu'au terme de cette immense combinaison, vous pourrez vous dire « Avec celui-ci, ça va marcher sans risque. » Et ça, c'est de la propagande. Ça me paraît un peu comme la propagande qu'avait faite l'armée américaine pour la guerre « Zéro mort ». Pour Alain Badiou, l'amour, c'est toujours une affaire risquée. Et c'est complètement vain d'essayer de se convaincre du contraire. Dans Passage cette semaine, l'histoire d'Elsa et de Juliette. Le vertige des risques qui persistent malgré tout et de ceux qu'on n'avait jamais tout à fait envisagés. Lover-voleur, une série en 4 épisodes de Lisiane Larbani, en partenariat avec Libération. Épisode 1, le match presque parfait.
Je suis inscrite sur les applications de rencontres depuis, je dirais, environ 2 ans par période. Hein, c'est pas depuis 2 ans en constance. Je m'appelle Juliette, j'ai 34 ans. À partir de la trentaine, déjà, on ne se fait plus draguer comme avant dans la rue ou dans les lieux publics. Les hommes n'osent plus. Quand on a des critères de recherche, entre guillemets, pour moi, par exemple, qui n'a pas d'enfant et qui ne veut pas d'un homme avec des enfants, ça élimine tout de suite ceux qui ne correspondent pas.
Je m'appelle Elsa, j'ai 38 ans. J'ai eu une très grande histoire, très longue, avec le père de mes filles qui a duré plus de 15 ans. Je l'ai rencontré, j'étais très jeune. Et puis, bon, la vie a fait qu'on s'est séparés. Et après ça, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée 3 ans, avec qui... Ça s'est mal fini. En fait, j'ai découvert qu'il avait toujours eu une double vie pendant nos 3 années de relation. Et donc, il avait prévu de se marier. En général, sur Tinder, je swipe indéfiniment à gauche. Et sur toute une soirée, il peut y avoir personne qui me plaît. Un soir de mars 2023, je suis chez moi, j'ai un match qui apparaît. Alors, assez étrange parce que c'est pas quelqu'un que j'avais liké. Et donc, je vois le profil de Lesti apparaître.
J'ai commencé à discuter avec Lesti sur Tinder au mois de mai, tout début mai, ou même fin avril, et on s'est rencontrés début mai.
C'est un homme africain d'1m90. Ce qui me plaît, c'est qu'il est très élégant. Il a l'air de s'habiller plutôt bien. Et il a l'air d'avoir pas mal de charisme. On se parle vraiment beaucoup, tous les jours. Et donc, quelques jours après notre premier échange, on arrive à convenir d'un rendez-vous. Donc moi, je vais le rejoindre à la sortie de son travail. On essaye de voir où est-ce qu'on peut aller, un bar pas très loin. Et on décide, pour notre premier rendez-vous, donc, d'aller au Hoxton. Au premier abord, alors je le trouve élégant, grand. Mais physiquement, je me dis, bof.
on a décidé de se rencontrer dans un café dans Paris, un jour de semaine, en fin de matinée. Lui, il avait des choses à faire l'après-midi, moi aussi, je devais bosser. Donc, on s'était dit, voilà, on se rencontre une petite heure pour se boire un café. Et la petite heure s'est transformée en trois parce que, en effet, ça a été tout de suite très fluide. Il s'est présenté comme un homme de 39 ans, célibataire, jamais marié, sans enfant.
Il a été marié et divorcé depuis quelques années. Il est papa de trois enfants.
Il me dit qu'il a deux belles voitures, qu'il a une maison dans le 95, qu'il refait tous les travaux et une extension sur la maison, qu'il a un appartement dans le 6e arrondissement de Paris. Je comprends qu'il est bien au-dessus de mes moyens.
Il est directeur de chef de projet dans une société de télécommunications. Une situation où il a l'air d'être très à l'aise financièrement. Il a aussi d'autres revenus puisqu'il est propriétaire de plusieurs appartements. Et il a également des business en Afrique. D'ailleurs, il souhaite prendre sa retraite à ses 40 ans. Pour moi, oui, c'est important d'être avec quelqu'un qui est ambitieux, qui a des projets. Après, ça ne fait pas tout, parce que quelqu'un d'ambitieux qui a des projets mais qui se comporte mal, ça ne m'intéresse pas. Et lui, disons qu'il a tout ce qu'il faut, tout me plaît chez lui. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui est très éloquent, qui a beaucoup d'humour, qui écoute énormément, qui s'intéresse énormément à ma vie. Et tout se passe bien, au point qu'on reste toute la soirée au Hoxton et qu'on finit par aller manger une crêpe à côté et on se quitte à 1h du matin.
Quand on décide de se revoir pour le deuxième date, j'y vais avec l'intention de lui dire que moi, c'est trop, que je ne pourrais pas suivre financièrement et que ça me dérange, parce que je me projette, entre guillemets, en me disant que si demain on doit choisir un logement ensemble ou un voyage, ça va être compliqué de pouvoir participer à la même hauteur que lui. Donc je vais à ce date en me disant je vais mettre les choses au clair et puis je l'apprécie, il correspond beaucoup à ce que je recherche, mais ça va pas être possible. Et donc, je lui exprime clairement mes inquiétudes. Et là, tout de suite, il me rassure. Et il me dit, non, mais je ne suis pas un flambeur. On s'adaptera. S'il faut rabaisser mes prétentions, que ce soit en termes de voyage, de loyer, on le fera. Il n'y a pas de sujet. Si je dois prendre, moi, la part pour compenser, je le ferai. Et c'est vrai qu'il me rassure. Et je me dis, bon, OK, dans ce cas-là, s'il est capable de rabaisser un peu ses prétentions, pourquoi pas, on y va. Et c'est ce soir-là qu'il décide de m'embrasser. Je rentre chez moi toute contente sur mon nuage en me disant « ça y est, une belle relation va commencer, il correspond à ce que je cherche ».
Après ce rendez-vous, on se revoit énormément, comme si on n'arrivait plus à se quitter, à se passer l'un de l'autre. Et on se revoit à peu près tous les deux jours. On va boire un verre, on va au restaurant, on fait plein de choses. Et à chaque fois, on est très content de se voir et ça confirme un peu plus l'intérêt qu'on se porte l'un à l'autre. Dans cette relation, je me sens comblée. On fait plein de choses. Tout me correspond. C'est comme si j'avais fait un moule du mec parfait et que c'était lui.
On échange beaucoup par téléphone, vocaux, SMS, toute la journée. On se voit très souvent. Il vient chez moi, on sort. On va au restaurant, au cinéma, on fait des expositions. J'ai fait un week-end avec lui. On fait plein de choses. On prend le métro, on fait des concerts, des spectacles.
Au mois de mai, Lesti se sent tellement bien et épanouie avec moi qu'il décide de me présenter à tout son entourage, donc une trentaine de personnes. Donc il organise ce barbecue en mon honneur dans une grotte à Gisors qui appartient à des amis architectes qui ont complètement réaménagé cette grotte pour en faire une magnifique maison. Donc on est sur la route et puis il reçoit un message d'une de ses sœurs disant que son père a été hospitalisé et que ça va très mal. Et donc il appelle l'hôpital quand on est sur le chemin pour avoir des infos. Et donc les infos qu'il a sont vraiment mauvaises, son père va très très mal. Et donc il faut qu'il se rende à l'hôpital où il apprendra une mauvaise nouvelle puisque son père a un cancer. Donc moi, évidemment, avec tout ça, on annule le week-end et je lui dis de s'occuper de sa famille et je le dépose chez lui puisque c'est moi qui conduisais. Il m'envoie des photos quand il est à l'hôpital, me dit qu'il dort régulièrement à l'hôpital pour soutenir son père. Et puis en tant que leader de la famille, il se doit de faire ça. Moi, je comprends, je vais pas me fâcher ou être jalouse du fait qu'il soit auprès de son père qui est malade. Donc voilà, on se voit un peu moins, mais les rapports ne changent pas. Il m'envoie des messages tout le temps pour me donner des infos, pour me dire que je lui manque. Et c'est d'ailleurs ce soir-là la première fois où il m'envoie un message en me disant qu'il m'aime.
En juillet 2023, Lestie m'annonce qu'il part 3 semaines en Portugal. Il me demande de venir avec lui, ce que je refuse, parce qu'il part en famille avec ses sœurs et ses beaux-frères et ses neveux et nièces.
Et puis, il me parle rapidement d'un projet de vacances à Faro, parce qu'il a des amis qui ont une magnifique villa là-bas. Lui, rapidement, me dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu connais, en plus, je connaissais ses enfants, donc il me dit, tu vas venir me rejoindre pendant les vacances, tu vas venir me rejoindre quelques jours. En plus, j'ai ma sœur qui travaille à Air France, donc elle pourra t'avoir des billets pas trop chers. Donc moi, je lui dis, ok, super, je suis flattée de me dire, voilà, ça se concrétise un peu. Lui part mi-juillet à Faro. Et donc, il est prévu que je le rejoigne le 21 juillet. Donc, il m'envoie les billets, il m'envoie une confirmation par mail de réservation, une confirmation, un mail Air France qu'il me transfère. La veille du départ, je prépare ma valise, donc je mets mes plus belles robes dedans. Je n'ai pas une valise, mais deux. En plus, je vais voyager en business puisque c'est sa sœur qui a réservé le vol et donc a certains avantages en travaillant à Air France. La veille, il m'appelle, il me dit que avec ses enfants, ils se retiennent de faire des activités, certaines activités, notamment visiter des grottes en bateau, etc., parce qu'ils veulent le faire absolument avec moi. Donc, lui me dit un peu les activités qu'ils font en vacances, il m'envoie des photos de la villa, tout a l'air super. Je me dis vraiment que je vais passer des vacances exceptionnelles avec lui. Il est prévu la veille du départ que sa sœur me dépose sa voiture à lui pour que je puisse la voir quand ils rentreront et que je puisse les récupérer à l'aéroport puisque eux rentrent quelques jours après moi. Et donc il me dit aussi, vu que c'est un homme très prévenant, que comme ça je n'aurais pas à me soucier de comment aller à l'aéroport et comment en revenir puisque comme ça je pourrais aller avec sa voiture à l'aéroport et il me réservera un parking là-bas. J'attends des nouvelles de sa sœur qui finit par m'envoyer un message. Donc, je n'avais pas le numéro de sa sœur. C'est sa deuxième sœur que je n'avais jamais rencontrée qui me dit qu'elle est désolée, qu'elle va venir un peu plus tard parce qu'elle a eu un contretemps. Je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème. Moi, je suis chez moi. Il devait être 20h à peu près quand elle m'envoie ce message. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je t'attends. Tu envoies-moi un message quand tu arrives. Elle me dit « Ok ». Et puis, j'ai aucune nouvelle, absolument aucune nouvelle. Donc, vers minuit, j'ai Lestie au téléphone, qui m'attend toujours avec impatience le lendemain. Et je lui dis « Ben, écoute, c'est quand même bizarre, j'ai aucune nouvelle de ta sœur. J'ai pour la voiture, comment ça se passe ?» Et donc, lui, à ce moment-là, m'annonce que c'est normal que je n'ai aucune nouvelle de sa sœur, puisque sa nièce de 3 mois était à l'hôpital. Parce qu'elle crachait du sang et voilà, c'était très grave. Donc, il s'excusait de la part de sa sœur. C'est pour ça qu'elle ne m'avait pas donné de nouvelles. Juste après ce coup de fil, je reçois un message de sa sœur qui me fait toutes ses excuses en disant « Je suis désolée, excuse-moi de ne pas t'avoir donné de nouvelles. » Et donc, Lestie s'organise et me dit que ça sera ses deux beaux-frères qui m'amèneront la voiture le lendemain matin, donc avant mon départ, et que je n'ai pas de soucis à me faire, qu'ils me déposeront la voiture. Le lendemain, de lui-même, il m'envoie un message le matin en me disant que ses beaux-frères allaient arriver à telle heure. Donc moi, je lui dis que ça faisait un peu tard et que le temps de faire la route jusqu'à l'aéroport, de trouver le parking, etc., ça allait être un peu juste. Donc je lui dis, dis à tes beaux-frères de venir avant. Il me dit, ok, pas de problème. Donc il m'envoie un message en me disant, ils arrivent à telle heure finalement. Je dis ok, donc moi je descends mes valises, j'attends les beaux-frères à l'heure indiquée, puisque lui me donnait des informations en temps réel en me disant voilà, ils m'ont dit qu'ils étaient là dans 12 minutes. Donc je descends, j'attends les beaux-frères qui n'arrivent pas, donc je l'appelle un peu agacée en disant c'est quoi ce bordel ? Il me dit attends, ils vont arriver, ils ont dû s'arrêter parce que ma nièce va vraiment mal et mon beau-frère il n'arrivait plus à conduire, du coup ils ont dû s'arrêter un peu sur le côté. Je lui dis, écoute, ok, hein, j'entends bien, je suis désolée pour ta nièce, mais je ne vais pas rater le vol pour une histoire de voiture, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais prendre un Uber de mon côté. Non, t'inquiète pas, attends-les, ils sont là dans 3 minutes, etc. Et moi, je lui dis, à telle heure, je commande mon Uber. Ce que j'ai fait. Donc, dans le Uber, je lui envoie une photo comme quoi je suis dans le Uber et que je me dirigeais vers l'aéroport. Donc, lui, il m'appelle à ce moment-là en me disant que sa nièce était entre la vie et la mort, que ça n'allait vraiment pas, que voilà, il était un peu dépassé, qu'il ne savait pas quoi faire, que sa sœur était dans tous ses états et que c'est pour ça que son beau-frère a mis autant de temps à venir. Bon, moi, je suis vraiment désolée pour lui et pour sa famille, mais bon, je me dirige quand même vers l'aéroport. Enfin, ça me concerne, oui, je me sens concernée parce que je suis très triste pour lui, mais bon, je vais quand même le rejoindre en vacances. Ça n'annule pas nos projets, et même lui ne me dit pas que ça annule quoi que ce soit. Donc j'arrive à l'aéroport, je scanne mon billet électronique aux bornes, et puis ça ne reconnaît pas mon billet. Je m'adresse à une dame qui travaillait à l'aéroport, qui était à côté, et elle me dit, écoutez, je sais pas, moi non plus, je retrouve pas vos références, allez à tel guichet Air France à l'autre bout de l'aéroport. Donc j'y vais, je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit, mais c'est un faux billet, madame. Et alors là, je tombe des nues. Et je lui dis non, mais c'est pas possible. Je lui dis c'est mon conjoint, sa sœur travaille à Air France. C'est elle qui m'a fait le billet, donc ça peut pas être un faux billet. Elle me dit déjà, je suis étonnée parce que quelqu'un qui travaille à Air France peut voyager elle-même ou sa famille, mais elle voyage pas avec vous, cette dame. Je lui dis non, pas du tout. Elle me dit mais c'est pas possible en fait, déjà. Et en plus, c'est un faux billet. Donc je l'appelle, lui, quand je suis au guichet avec la dame. Il me répond et avec beaucoup d'audace me dit « Mais non, mais c'est une erreur, c'est impossible que ça soit un faux billet. Attends, je vais appeler ma sœur parce qu'il doit y avoir un problème en interne dans les logiciels ou je ne sais quoi. » Donc je me mets sur le côté, je m'assieds sur les chaises de l'aéroport comme dans les films assez pathétiques avec mes deux grosses valises et je commence à pleurer. Et donc lui, en attendant, m'envoie un message en disant « Écoute, puisque c'est le chef de famille, il dit « Je suis en train de régler tous les problèmes, je suis en conférence téléphonique avec mon père et mes sœurs par rapport à ma nièce et tout. Je suis désolée, attends, je gère et tout, je te rappelle tout de suite. » Donc moi, je lui envoie un message en disant « Écoute, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je reste ici assise comme une conne à l'aéroport? Est-ce que tu me trouves un autre billet ou est-ce que je rentre chez moi ?» Il finit par me répondre en me disant « Écoute, là, vraiment, je suis au plus mal entre toi qui ne peux pas venir et ma nièce qui est entre la vie et la mort. C'est mieux que tu rentres. Moi aussi, je vais écourter mes vacances. » Moi, à ce moment-là, déjà, j'ai vrillé dans ma tête. Je me dis « C'est un mytho. » Je rentre chez moi, je suis furax. En regardant par la fenêtre dans le RER, je me refais tout le schéma de notre histoire et je me dis qu'en fait, tout était trop parfait, tout était trop gros. Son histoire de « j'ai les moyens, j'ai des entreprises, je suis multipropriétaire, etc. » Mais je ne comprends pas pourquoi, quel est l'intérêt de faire ça. Suite à son message où il me dit qu'il va finalement finir par rentrer, j'ai plus trop de nouvelles et moi, je veux le confronter. Donc, j'essaie de l'appeler, il ne me répond pas. Donc, moi, je pète un plomb. Lui, en plus, me dit « Écoute, je ne peux pas rester trop longtemps, je suis au cinéma avec les enfants. » Je lui dis « Mais tu te fous de ma gueule, tu es au cinéma avec tes enfants pour regarder un film en portugais un soir alors que tu es en vacances au bord de la mer. Arrête de te foutre de ma gueule, en fait. » Et enfin, là, une discussion où il essaie de me prouver en me disant « Mais pourquoi je te mentirais? J'ai aucun intérêt à te mentir. Tu sais comme je t'aime, etc. » Enfin, une discussion... Je suis dans l'incompréhension, je suis en colère. J'ai les nerfs, en fait. Le lendemain, on se reparle. Lui me confirme qu'il est bien au Portugal. Il n'en démord pas. Il me dit qu'il va m'appeler en visio aux alentours de midi. Je lui dis que je ne serai pas disponible. Et finalement, il m'envoie des vidéos où il est au restaurant avec ses enfants, donc au restaurant portugais, puisqu'il est au Portugal. Une première vidéo où il se filme en selfie au restaurant avec ses enfants. Et puis, il dit à ses enfants... écoutez les enfants, Elsa se plaint de ne pas avoir trop de nos nouvelles, dites-lui ce qu'on fait, où on est. Donc les enfants disent tour à tour, hein, les trois prennent la parole, disent oui, on est dans une super villa au Portugal, c'est trop bien, on fait telle activité, c'est super, etc. Ils décrivent un peu leurs vacances. Une deuxième vidéo, il filme son plat et la serveuse qui explique en portugais ce qui est son plat. Et la troisième vidéo où ses enfants décrivent encore un peu leurs vacances. Alors je reçois ces vidéos et puis je doute presque un instant. Je me dis « Ah ouais, en fait, il est vraiment au Portugal. » Et puis j'envoie à mes copines et mes copines me disent « Mais attends, c'est bizarre, derrière, ça parle français. » Donc je dis « Ouais, ben, y a peut-être des touristes à Faro, il y a des touristes français. » Et puis finalement, on analyse un peu l'environnement de la vidéo parce qu'évidemment, il a pris soin de ne pas filmer le nom du resto, mais on voit quand même les deux premières lettres. Et j'ai une copine qui fait des recherches et on s'aperçoit que c'est un restaurant à Pierrelaye, à 9 minutes en voiture de chez lui, un restaurant portugais en effet, mais à Pierrelaye, pas à Faro. Là, je passe en mode « je vais te détruire ». Tu peux pas te foutre de ma gueule à ce point-là et en plus continuer à me donner des fausses preuves, mettre tes enfants dans la boucle, mais je trouve ça juste ignoble. Donc je me dis « ok, ben, je vais débarquer chez toi, mon coco ». J'arrive devant la maison, je vois son fils qui est à l'extérieur en train de jouer. Je m'adresse à son fils tout à fait normalement en lui disant « Est-ce que papa est là ?» Et il me dit « Ah ben non, papa est à la déchetterie avec son autre fils. » Je dis « Ok, ben c'est pas grave, je vais l'attendre. » Et donc le petit me parle normalement et puis il rentre dans la maison, il va prendre le téléphone de son papy et puis il appelle son père en haut-parleur. J'entends qu'il commence à lui parler et puis je lui dis « Ben tiens, passe-le-moi. » Donc je lui dis « Toi, ramène ton cul ici tout de suite parce que ça va partir en cacahuète. » Donc il est arrivé en 30 secondes, je pense, en sens interdit, à fond les ballons en voiture. Donc il arrive et je lui dis « C'était bien le Portugal ?» Il me dit « Oui, oui, ben, on vient juste de rentrer là. » Je lui dis « Mais tu te fous de ma gueule en fait. À 14h, t'étais au resto au Portugal. Là, il est 17h, t'es dégueulasse, tu reviens de la déchetterie, t'es tout transpirant. » Et t'as eu le temps de faire tout ça entre-temps. Et puis, plein d'audace, hein, parce que c'est toujours un mensonge par-dessus un autre. Il me dit, oui, oui, non, mais le restaurant était juste à côté de l'aéroport, et là, on vient juste de rentrer, donc bah oui, en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il me maintient dur comme fer, qu'il était bien au Portugal. À ce moment-là, je suis triste, hein, je pleure et tout, parce que je me dis, mais il est malade, en fait, pourquoi il fait ça ? Et puis, comme il continue à me mentir, moi, je regarde sur mon téléphone, le restaurant est à 9 minutes de chez lui. Je me dis, je vais aller au restaurant, je vais te faire fermer ta bouche, en fait. Donc, j'ai été au restaurant. Avec mon téléphone professionnel que je le mets sur ma poitrine, je filme. Et je rentre dans le restaurant en montrant la vidéo qu'il m'avait envoyée aux serveuses et en leur disant, écoutez, mon mari et mes enfants sont venus ce midi, ma fille a perdu sa gourmette, j'y tiens beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'ils étaient installés si vous l'avez retrouvée ? Et donc, je tombe sur la même serveuse que dans la vidéo qui me dit « Ah oui, je me rappelle très bien, ils étaient installés là, mais non, on n'a pas retrouvé de gourmette. » Je sors, je lui envoie, je lui dis « Maintenant, voilà, tu vas fermer ta gueule maintenant. » Pendant environ 10 jours, il n'avoue pas. Moi, cette période-là, je suis au plus mal, je comprends rien de ce qui m'arrive, en fait. Quel est l'intérêt, en fait, d'avoir fait tout ça ? Mais j'ai envie qu'il avoue parce que je me dis, en fait, il a un problème, ce mec, c'est un mythomane, mais il faut qu'il se fasse soigner. Il faut qu'il en prenne conscience pour pouvoir se faire soigner derrière. Au préalable, j'avais retrouvé le numéro de son ex-femme. Et en fait, je lui ai dit, excuse-moi de te déranger, je ne sais pas si tu sais qui je suis. Elle me dit si, puisque mes enfants m'ont déjà parlé de toi. Et je lui dis, je voulais savoir les styles, j'ai des soucis avec lui. Est-ce que c'est un mythomane ? Est-ce qu'il a des problèmes psychologiques ? C'est quoi son problème, en fait, à ce mec ? Et donc là, elle me dit, oui, c'est un mythomane, mais pas que, c'est aussi un arnaqueur, et t'es loin d'être la première à m'appeler.
Donc j'appelle son ex-femme, elle décroche, je lui demande si elle le connaît. Elle me dit, oui, t'es qui ? Et là, je lui explique qui je suis, et elle me dit, écoute, on va se tutoyer parce que t'es pas la première et tu seras pas la dernière.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Lover, Voleur, une série de Lisanne Larbani, dans la suite de son enquête publiée dans Libération en décembre 2023. Dans le deuxième épisode, vous entendrez Marie, qui fréquente aussi l'Esti ce même été 2023. Les épisodes 3 et 4 seront en ligne lundi 29 avril. La réalisation et le mix sont de Clémence Relia. Louise Merlet est à la production. À très vite.
Merci pour votre écoute et merci à Libération d'être partenaire de cette mini-série de passage. À cette occasion, Louis vous offre un mois d'abonnement gratuit à Libération sans engagement. Rendez-vous sur libé.fr/code promo, entrez le code Louis en majuscule, vous n'aurez même pas besoin de votre carte bancaire. Bonne lecture et bonne écoute.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.